France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Intelligence artificielle, numérique, génétique, spatiale, santé, l'innovation est-elle une question de survie? Faut-il innover tout le temps, toujours, surtout? La frénésie d'innovation empêche-t-elle de penser les conséquences de l'innovation elle-même? Et plus précisément, faut-il continuer d'innover dans un monde fini, dans un monde où les ressources ne sont pas infinies? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir, Antonin Bergeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à HEC, vous êtes lauréat du prix du meilleur jeune économiste de France 2025, décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. Avec nous et à distance, Philippe Biwix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur, auteur avec Vincent Perriot de la bande dessinée intitulée Ressources, un défi pour l'humanité qui a paru chez Casterman en octobre dernier. Et le 12 juin prochain, je signale que vous ferez paraître chez Tract Gallimard cet ouvrage court mais dense intitulé L'insoutenable abondance, faut-il croire les prophètes du progrès? Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Quand je vois 109 milliards pour l'IA, alors que pour gérer 10% du territoire français, l'Office national des forêts a 1 milliard par an, moi ce que je me dis, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de gérer les priorités dans le bon ordre. Voilà, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que dans un monde aux ressources infinies, qu'on fasse des gadgets en plus des trucs essentiels, bon, très bien, si ça nous amuse, moi j'ai aucun problème avec ça, mais dans un monde aux ressources finies, qu'on fasse des gadgets à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie. Et l'IA, elle est essentiellement promue par les 5% de la population qui n'ont pas de problème et qui sont encore les gagnants de la mondialisation. Mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des problèmes qui concernent 90% de la population. Mais... Et par ailleurs, le jour où on constatera que ça permet de falsifier l'information dans tous les sens, vous serez peut-être les premiers à vous dire qu'on aurait dû poser un peu plus de limites au début.
Jean-Marc Jancovici, dans la matinale de France Inter, dans le 7-10 cette semaine, Antonin Bergeau, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un truc essentiel, pour reprendre l'expression de Jean-Marc Jancovici? Est-ce qu'il faut à tout prix innover dans ce domaine et mettre tout l'argent qu'on y met déjà?
Alors, je pense que dans ce que dit Jean-Marc Jancovici, il y a des choses qui sont évidemment importantes, et puis après, il y a un petit peu de provocation, je pense. C'est jamais essentiel, on doit jamais innover à tout prix. Enfin, le tout prix, tout ce qui, si on met derrière la destruction complète de l'environnement et du bien-être des populations, évidemment qu'il faut pas innover. Donc, c'est toujours une question d'arbitrage et de mesure coût-bénéfice. Le problème, c'est que avant de connaître le bénéfice d'une technologie, on peut apercevoir, essayer de deviner un peu le coût, mais on peut surtout mal l'approximer. Donc c'est très difficile de se dire on va interdire ou on va très fortement réguler à un moment où on n'avait pas une vision très claire de comment les choses vont évoluer. Donc, sur l'IA notamment, évidemment qu'on a tous perçu que c'était une technologie particulièrement importante et qui allait avoir un développement qui allait probablement nous emmener vers une nouvelle révolution industrielle avec des impacts dans tous les secteurs, dans tous les domaines de l'économie et même hors de l'économie. La question, c'est est-ce qu'on, par crainte, peut-être des effets alors sur l'environnement, mais aussi, comme ça vient d'être dit, sur les fake news, sur tout ce que ça peut entraîner comme transformation de la société, on doit freiner son développement? Ou est-ce qu'on doit continuer à avancer et puis essayer de trouver un chemin un peu intermédiaire entre quelque chose de complètement dérégulé et puis une interdiction pure? Je pense qu'il y a un chemin intermédiaire, justement.
Vous dites, Antonin Bergeau, c'est une question de coût-bénéfice, c'est une question d'arbitrage, mais c'est exactement ce que fait Jean-Marc Jancovici en creux lorsqu'il met justement en opposition le choix d'investir massivement dans l'intelligence artificielle d'un côté et le fait d'investir beaucoup moins pour nos forêts à travers l'Office national des forêts.
Oui, absolument, mais il y a un peu un raisonnement à somme nulle qui est fait et qui est pas forcément complètement rationnel. L'IA va générer beaucoup de ressources, beaucoup de revenus, va consommer des ressources, mais aussi en générer beaucoup. Il n'y a aucun de ces 120 milliards qui a été annoncé sur l'IA qui a été pris sur un budget qui aurait dû aller à l'environnement. C'est de l'argent privé qui va dans l'investissement pour l'IA. Maintenant, la question, c'est des questions de choix de politique. Si on veut dépenser plus pour l'environnement, on dépense beaucoup sur l'environnement. On a besoin de ressources. On a besoin notamment de marges budgétaires, si on veut que ce soit de l'argent public qui le fasse. Pour dégager ces marges budgétaires, on a besoin de PIB, de productivité. Et pour ça, le moteur principal, c'est l'innovation. Donc, il y a un arbitrage à trouver. Mais dire qu'on met dans l'IA et que du coup on met pas ailleurs, c'est un petit peu une façon un peu statique de voir les choses, qui est pas forcément la bonne. L'IA va être fondamentale pour pouvoir augmenter justement la taille de notre économie, notre richesse, qui va être fondamentale pour pouvoir être plus efficace dans nos investissements pour l'environnement, par exemple.
Philippe Biwix, votre point de vue, est-ce que Jean-Marc Jancovici est dans la pure provocation ou, à l'inverse, il pointe quelque chose, un arbitrage important ?
Non, je pense qu'il n'est pas effectivement dans la provocation pure. Alors effectivement, il y a peut-être une petite confusion entre de l'argent qui est finalement privé. D'ailleurs, c'est étonnant que la puissance publique se gargarise finalement de ses investissements, alors que c'est des trucs qui arrivent potentiellement du Golfe Persique ou autre. Mais c'est vraiment ce sujet de dire où est-ce qu'on va mettre effectivement des ressources qui sont limitées. Alors ça peut être des ressources physiques, ça peut être des ressources humaines, des ressources financières, des ressources en temps aussi de la puissance publique qui peut accompagner. Et évidemment, c'est cette histoire de rapport coût-bénéfice, elle est évidente, hein. Enfin, on le fait pour des projets d'autoroutes ou de lignes grande vitesse ou des aéroports, et d'une certaine manière, on aimerait le faire aussi dans la logique de ces technologies. Sauf que on est pris dans un événement, ça date pas d'hier d'ailleurs, dès les années 1950, Jacques Ellul, le penseur de la technique, parlait du système technicien qui était mu finalement par sa propre énergie, hein, finalement, à travers l'écosystème de chercheurs, d'ingénieurs, etc. Et on n'a jamais eu autant de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens qu'aujourd'hui, évidemment. Donc du coup, la capacité de dire, qu'est-ce que je fais, j'essaye d'y aller plus ou moins, et puis on verra bien si effectivement il y aura plus de capacité à faire des meilleures interprétations médicales et des prévisions météo plus que des fake news et je sais pas quoi, la perturbation du système démocratique, c'est un petit peu, enfin il y a une petite, je trouve, une certaine naïveté derrière ça, c'est-à-dire que finalement toutes les technologies, toutes les innovations, elles portent leur lot de positifs et de négatifs. Hein. Jacques Ellul, il disait, la technologie, elle est pas neutre. Hein. Des fois, on entend ça en disant, c'est un couteau, vous pouvez assassiner votre voisin ou éplucher des carottes avec. Non, les technologies sont toujours ambivalentes, à la fois positives et négatives. On a à la fois les interprétations des radios et les fake news. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut derrière effectivement faire des choix ou pas sur finalement l'orientation des innovations. Évidemment, on est poussé par les voisins. C'est le syndrome de la reine rouge, vous savez, qui court sur place dans Alice au pays des merveilles. Mmh. Hein, si elle est obligée de courir pour rester au même endroit et obligée d'accélérer si elle veut gagner un peu de terrain, et si elle ralentit un petit peu, bah les autres vont aller plus vite. Donc on est pris dans ce truc là. Mais c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, compte tenu du fait que il y a eu très très vite des promesses autour de l'IA un peu salvatrices, y compris sur les questions environnementales, hein, y compris sur les questions climatiques. Quand on regarde par exemple Sam Altman, qui dans The Intelligence Age, un texte qu'il a commis il y a quelques mois ou quelques années maintenant, il dit on va, grâce à l'IA, stabiliser le climat, établir des colonies spatiales et découvrir toutes les équations de la physique. Hein, il y va pas de main morte. Et en fait, quand on regarde les cas d'usage réels de l'IA, alors oui, on peut étudier, je sais pas, les forêts, comment elles captent du CO2, la température des océans, je sais pas quoi, on peut gagner un peu en efficacité, mais la capacité réellement à se réinscrire dans les limites planétaires, en fait, est pas du tout. Enfin, y a pas de cas d'usage, quoi. C'est comme dans beaucoup de cas sur les voitures autonomes qui devaient faire qu'on allait tous covoitureurs, etc., quoi.
Vous employez une expression, Philippe Biwix, vous dites on est pris, comme si on était pris dans cette course à l'innovation, comme si on était pris dans cette frénésie, dans le fond, à innover. Antonin Bergeau, la question qui se pose en creux, qui était aussi implicite dans le propos de Jean-Marc Jancovici, c'est est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce qu'on peut ne pas investir dans l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Est-ce que même cette option-là nous est offerte ?
Bon, on a toujours le choix, hein, ça me paraît, enfin, ce que vient de dire Monsieur Biwix est assez pertinent, mais pour le coup sur l'IA, je trouve que c'est un peu difficile de juger cette technologie comme étant une technologie qui aurait peu de bénéfices ou dont les bénéfices sont incertains. Il y a à mon avis des exemples de technologies dans lesquelles on peut envisager qu'effectivement le rapport coût-bénéfice est très défavorable. Si on pense à toute la séquence qu'on a eue sur les crypto-monnaies, les NFT, là évidemment il y avait un coût environnemental énorme pour un coût pour la société, un gain pour la société qui est pas énorme. Pour l'IA,
les NFT, on s'en souvient même pratiquement plus, voilà, c'était partie du cimetière des innovations, on se demande à quoi ça sert
exactement, mais ça on pouvait le dire même avant peut-être. L'IA, alors on ne sait pas évidemment si l'IA va permettre de trouver la solution pour de l'énergie parfaitement décarbonée, gratuite et infinie. Peut-être que c'est effectivement complètement utopique. Néanmoins, l'IA va quand même permettre un certain nombre de gains d'efficacité dans beaucoup d'entreprises qui devraient quand même avoir des effets positifs sur la consommation de ressources. Maintenant, est-ce qu'on a le choix ? On a à mon avis pas le choix parce que effectivement la manière dont le progrès et l'innovation fonctionnent, c'est qu'on a de plus en plus d'ingénieurs, comme vous l'avez dit, plus en plus de scientifiques. Ils sont en concurrence les uns les autres. Il y a en plus sur le numérique et sur l'IA un phénomène un peu de winner takes all, c'est-à-dire que le premier, celui qui a le meilleur modèle, l'emporte tout parce que en fait tout le monde va utiliser le meilleur modèle. Il y a aucun intérêt à utiliser le deuxième meilleur. Et donc, évidemment, il y a une course un peu effrénée qui est peut-être exacerbée, justement, dans le numérique et qui donne cette impression un peu qu'on va trop vite et qu'il faudrait peut-être prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Le problème, c'est que, justement, nous, on a, en Europe, je pense, quand même, des valeurs qui sont un peu différentes de celles des Chinois et des Américains. Rien n'est parfait en Europe et on n'a pas, en plus, une harmonisation dans nos valeurs. Mais je pense que, quand même, par rapport...
On a les moyens de créer un autre modèle, dites-vous.
Donc, il faudrait qu'on cherche notre modèle. Et si on n'investit pas dans l'IA, de toute façon, les entreprises vont finir par adopter des modèles américains ou chinois au risque de disparaître, hein, parce que là, il va y avoir clairement une perte de compétitivité énorme si on interdit l'IA à ces entreprises. Donc, elles vont adopter des modèles qui seront peut-être très gourmands en ressources, qui seront peut-être entraînés sur des corpus essentiellement américains avec un biais, etc. Donc, je pense que c'est important qu'en Europe, on essaye quand même de trouver notre voie. Et pour ça, il faut des investissements. Tant mieux si c'est des investissements privés, parce que ça libère... ça ne grève pas nos marges budgétaires publiques. Mais ça me paraît important de ne pas abandonner cette course.
Je vais revenir, Philippe Biwix, sur cette question investissement public, investissement privé. Je vous interroge d'abord et avant tout sur cette question du choix. Est-ce que vous identifiez vous-même une forme de fatalité, de fatalisme dans cette nécessité affichée à innover en matière d'IA ?
Je pense qu'effectivement, la question géopolitique, elle s'invite assez vite. Et avant même de parler d'IA, toute la question autour du cloud souverain, toute la question autour des logiciels, où, alors c'est pas tout à fait winner takes all, mais winner takes almost everything, hein, presque tout. Et puis, il y a quelques personnes qui, effectivement, travaillent avec des logiciels libres. Et globalement, on est déjà très dépendant de... Voilà, de d'autres sphères d'influence, que ça soit sur la fabrication des équipements avec la Chine, le Sud-Est asiatique, que ça soit d'ailleurs avec les matières premières si on remontait en amont de la chaîne, et puis que ça soit avec les logiciels, avec une prédominance des États-Unis. Et donc effectivement, avec cette nouvelle donne qui semble se dessiner, il y a une vraie question de capacité à développer des choses pour avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance, une certaine souveraineté. Voilà, des mots qui sont très à la mode. On pourrait rajouter évidemment la résilience, hein, la capacité à résister à des perturbations externes. En fait, le problème, c'est que les mécanismes actuels, y compris d'ailleurs de soutien de la puissance publique, où finalement, hein, quand vous êtes une start-up, effectivement, tout à l'heure, Antonin parlait des NFT, on peut en trouver plein, des tartes à la crème technologiques qui ont fait un petit peu le hype à un moment. Hein,
j'ai pensé au Google Glass tout à l'heure, vous savez, ces lunettes au début des années 2010 qui nous promettaient de voir le monde différemment et proposées par Google.
Voilà, il y avait le métavers où ils se sont retournés d'un coup après avoir cramé, alors je sais jamais si c'est 10 milliards ou 40 milliards de dollars, mais ça fait quand même beaucoup. Il y avait Titan, la voiture autonome d'Apple, on allait voir ce qu'on allait voir, ils allaient révolutionner la mobilité. La blockchain, effectivement, avec derrière le Bitcoin, ça devait complètement revoir des processus et faire disparaître les notaires. Bon, tout ça n'est pas complètement advenu non plus. Donc effectivement, il y a ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a toujours un peu des mots magiques. Ces mots magiques, ils permettent d'aller capter des subventions, ils permettent d'aller capter donc des subventions publiques ou éventuellement d'attirer des capitaux privés. Et du coup, tout le monde met un peu le truc à l'associé. Et donc, on fait de l'IA non pas juste pour avoir la même capacité, je sais pas, à faire de l'IA frugale pour apprendre sur des micro-modèles et non pas des larges modèles de langage. Mais des choses qui sont moins consommatrices de capacité de calcul et sur lesquelles on pourrait effectivement faire les interprétations médicales, etc. Donc des choses vraiment très utiles. Et puis il y a d'autres domaines où finalement, eh bien, on pourrait mettre nos œufs dans d'autres paniers et développer d'autres types d'innovations. Finalement, aller dans une logique un peu de monde, un peu dual, on pourrait dire techniquement. C'est-à-dire où il y aurait des choses où effectivement, sur des logiques régaliennes, la défense, il y a les data, les communications, bah, de toute manière, on est effectivement pris dans un monde qui doit avancer. Mais il y aurait d'autres domaines où on pourrait aller plus vers des logiques de d'économie de la réparation, du partage, d'une agriculture par exemple qui soit très très respectueuse du vivant. Et ça, et c'est pas forcément l'agriculture 4.0 avec des drones, des robots désherbeurs et des data pour savoir comment on optimise les engrais, les pesticides, quoi. Je veux dire, vous pouvez baisser plus facilement les pesticides en rajoutant des haies, en faisant de la polyculture, en faisant de la rotation des cultures et en ayant en faisant revenir des prédateurs naturels des insectes et en acceptant éventuellement, en payant le juste prix, d'avoir une légère baisse de rendement qui pourrait être largement compensée, par exemple, par une par une évolution du menu et de la quantité carnée. Voilà.
Ça vous paraît, j'allais dire, possible, crédible, Antonin Bergeau, ce que propose là Philippe Biwix, dans le fond, arriver à sélectionner en amont les champs de l'innovation dans lesquels il faudrait investir, dans lesquels il serait judicieux d'investir ? Ça pose aussi, ça pose en creux la question de savoir aussi ce que vont générer à terme ces innovations. Ça, c'est toujours compliqué en amont.
Voilà, c'est ça. Je pense que effectivement, ce serait un modèle idéal, le modèle qui vient d'être décrit. Effectivement, si on était capable avant de savoir exactement quelle technologie va finalement avoir un impact négatif net, on va dire. Une fois qu'elle aura atteint la maturité, ou si on savait exactement comment réguler de manière à s'assurer justement d'avoir un retour positif, ce serait effectivement l'idéal. Le problème, c'est qu'on sait évidemment difficilement exempter et que la tendance est plutôt d'aller un peu trop loin dans la régulation, qui fait que finalement on freine le développement des technologies. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de l'IA, on peut faire une régulation très très agressive qui interdirait carrément ou qui rendrait très difficile même la pénétration des outils d'IA qui sont produits dans d'autres pays en Europe, mais ce serait aussi au détriment de la compétitivité de nos entreprises. Donc je pense que le chemin qu'on cherche, c'est plutôt d'essayer de réguler de manière un petit peu juste pour ne pas freiner le développement de cette industrie en Europe. Et pour l'instant, les tentatives qu'il y a eu sont plutôt échoué, puisqu'on a de fait aucune industrie numérique d'ampleur en Europe,
Vous pensez que c'est à cause de la régulation ? C'est parce que la régulation bride l'innovation dans ce domaine ?
C'est pas la régulation directement qui bride l'innovation, c'est le fait que vous ayez un certain nombre de choix institutionnels qui ont été faits en Europe, qui sont d'ailleurs des choix conscients et qui sont pas forcément négatifs, mais qui sont des choix qu'on a faits, qui sont pas forcément des choix qui permettent le développement efficace d'un secteur numérique. Il faut voir ce que c'est que la réalité sociale d'une entreprise du numérique aux États-Unis. Il y a énormément de licenciements. C'est des entreprises qui croissent très vite, qui abandonnent des projets. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire en Europe. On a des régulations.
Les choix dont vous parlez, c'est notamment en matière de code du travail et de protection sociale.
Code du travail et puis sur l'environnement également. Enfin, on a fait des choix en Europe qui sont sur lesquels il faut être cohérent, mais du coup, effectivement, qui permettent pas de développer de manière extrêmement rapide un secteur technologique.
Philippe Biwix, je reviens sur cette question de qui finance l'innovation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Antonin Bergeau lorsqu'il dit qu'au fond, c'est une bonne nouvelle que ces investissements viennent d'abord et avant tout aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, du secteur privé ?
Bah, d'abord, je voulais faire une petite remarque sur la question de la Silicon Valley et pourquoi est-ce que finalement en Europe on n'a pas des champions numériques ou des champions de la robotique ou que sais-je. Il y a quand même cette question du poids du complexe militaro-industriel américain, on va l'appeler comme ça, hein, et de la commande publique là justement, qui quand même permet de financer un certain nombre d'entreprises, alors qui peuvent être des startups ou des entreprises bien installées. Et qui aident en fait à flécher en fait des investissements. Alors il y a aussi oui un écosystème un peu unique avec des business angels etc et des venture capitals, mais globalement il y a quand même l'idée que enfin derrière Boston Dynamics qui fait un robot très impressionnant qui arrive à faire des pirouettes, c'est un robot qui va porter le sac de l'armée des États-Unis quoi. Donc il y a quand même beaucoup de financements publics qui sont pas juste un peu du saupoudrage de subventions, mais qui sont des grosses commandes de long terme sur des besoins qui sont des besoins régaliens. Et on peut penser, par exemple, d'ailleurs, en ce moment, il y a des dizaines de startups qui se sont lancées, soit sur les small modular reactors, donc des petits réacteurs nucléaires à fission, soit sur la fusion nucléaire, dont on peut penser que ça va être quand même difficile d'imaginer que ça soit le privé qui tienne pendant 20 ou 25 ans ou 30 ans, qui seront nécessaires au développement, à l'homologation et au fonctionnement réel de à la mise au point technique et au déploiement industriel jusqu'à être capable de gagner de l'argent. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas qu'il y ait beaucoup d'argent privé qui se déverse? Bon, l'argent privé, il se déverse partout. Il y en a trop, hein. C'est la politique monétaire des dernières décennies qui fait qu'il a fallu que ça aille quelque part. Alors tantôt dans de l'art contemporain, tantôt dans l'immobilier, tantôt dans des bitcoins et tantôt dans des trucs qui vont pas forcément marcher. Moi je me désole
juste,
un peu
de vous couper parce que beaucoup disent justement que d'argent privé il n'y en a pas assez, notamment en France, notamment en Europe, puisque les taux d'épargne sont parmi les plus élevés du monde.
Alors, il y a peut-être des mécanismes locaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, par exemple, pour suivre le déploiement de l'IA et le buzz quelque part qu'il y a sur l'IA et le fait que pour l'instant, on ne sait pas encore qui est le winner et qu'il y a différents modèles qui se développent, il y a des centaines de data centers hyperscale. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, des data centers de grande taille, il y en a à peu près 8000 dans le monde, dont à peu près 1000 qui sont qu'on appelle hyperscale, donc vraiment des tailles, c'est plusieurs hectares et c'est la consommation de centaines de mégawatts, c'est-à-dire des villes de dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'habitants. Il y en a plusieurs centaines qui sont déjà en construction ou en programmation pour les 2-3 prochaines années. Donc il va y avoir un impact massif dans cette bulle quelque part, parce que finalement derrière on ne sait pas encore quels seront finalement les besoins. Est-ce que c'est le réfrigérateur qui va faire la liste de courses et des menus tout seul? Est-ce que ça sera de la productivité dans les entreprises parce que on fera plus de compte rendu de réunion et qui seront automatiques et puis qu'il y aura des recherches de documentaires? Ou est-ce que ça sera pour des fake news et quelle sera la proportion de tout ça? Le problème c'est que voilà, dans cette logique noire, les entreprises sont pas non plus, les géants de la tech sont pas non plus très transparents pour être capables de faire du techno-discernement, du discernement technologique avec les bons, les mauvais usages et les rapports coûts-bénéfices, encore faut-il partager l'information. Or, c'est ce qu'ils font pas, quoi. Donc, pour l'instant, on est dans une bulle qui va être massive d'un point de vue de l'impact environnemental mondial.
Vous avez mentionné, Philippe Biwix, tout à l'heure, un penseur, Jacques Ellul. On va l'écouter dans une archive de 1977. Il établit un lien entre technique et liberté. Évidemment, un lien à critiquer.
Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi ?
L'innovation dans le champ de la pensée de Jacques Ellul, c'est notamment d'avoir établi un lien et un lien fort entre la question écologique d'une part et la question de la technique, Antonin Bergeau. Est-ce que le fait de réaliser enfin que nous vivons dans un monde fini, où les ressources ne sont pas infinies, doit nous permettre de repenser là aussi la question plus profonde de l'innovation et de la nécessité à innover en permanence?
Je pense qu'il y a deux choses. En fait, la première chose, c'est que souvent, on oppose croissance et environnement, et on explique qu'en fait, la croissance a ce côté un peu absurde, la croissance économique, qu'on est dans un monde fini et que donc, on ne peut pas continuer à croître de manière infinie, puisque par définition, les ressources sont finies. La croissance s'appuie, en fait, aujourd'hui, essentiellement sur une augmentation de la qualité de ce qu'on consomme plutôt que sur la quantité. Donc en fait la question en lien avec les ressources, c'est plutôt est-ce que effectivement l'innovation qui permet d'augmenter de la qualité de ce qu'on consomme, elle-même consomme beaucoup de ressources. Et pour l'IA, bah c'est assez clair, c'est-à-dire que l'IA va nous permettre d'améliorer normalement de manière très nette la qualité des services, notamment pour ce qui est de l'IA générative qu'on va consommer, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui seront écrites de manière plus précise, de la recherche documentaire qui va être plus spécifique, plus ciblée, donc a priori un retour de meilleure qualité.
Mais donc, évidemment, ça veut dire pour vous, pardonnez-moi, je vous coupe, ça veut dire pour vous qu'on peut continuer de croître infiniment dans un monde fini? En augmentant, en améliorant toujours la qualité des biens, des services qui nous entourent?
On peut pas vraiment aller à l'infini. Si on parle vraiment de l'infini au sens infini, non, puisqu'au bout d'un moment, on va être heurté à une limite physique. Mais on peut croître longtemps en diminuant notre empreinte sur justement notre consommation de ressources naturelles, puisqu'il y a un arbitrage, en fait. Enfin, il y a une relation entre ce qu'on produit et l'amélioration de la qualité de ce qu'on produit, et notamment de son utilisation de ressources naturelles. Donc on produit plus, mais chaque production marginale supplémentaire consomme moins de ressources que la précédente, donc finalement ça équilibre un petit peu. Alors ça permet pas d'aller jusqu'à l'infini, mais je pense que c'est un débat théorique qui a pas forcément d'intérêt. Je pense que la question pour la croissance, c'est plutôt est-ce qu'on peut trouver un chemin de croissance équilibré qui peut-être finira par aller à zéro, mais en tout cas avec un chemin qui nous permet d'anticiper le fait qu'on arrive à zéro. Aujourd'hui, on est plutôt sur une décroissance un peu subie. pas d'ailleurs pas spécialement en lien avec l'environnement, parce que même s'il y a des régulations qui limitent un peu la croissance, elles ne sont pas encore suffisamment importantes pour expliquer le ralentissement économique qu'on connaît, mais on a un ralentissement économique pour tout un tas de raisons. Qui aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes sociaux, budgétaires.
On est sur de la décroissance ou de la croissance plus faible?
On est sur une croissance, on n'est pas encore sur la décroissance, mais on est sur une croissance qui est inférieure à 1%, ce qui est en dessous de la cible qu'on devrait atteindre pour ne serait-ce qu'équilibrer nos dépenses sociales, par exemple. On le voit en ce moment puisqu'on est en train d'en débattre. Donc ça, c'est un problème puisqu'elle est subie. Donc, en fait, je pense que la question de l'équilibre entre l'utilisation des ressources naturelles et la croissance, elle est plus, est-ce qu'on peut trouver un chemin, encore une fois, qui nous permet d'aller vers une consommation qui est de moins en moins dépendante et de moins en moins consommatrice de ressources, et une croissance qui ne soit pas zéro, en tout cas pas à court terme, puisque ça, c'est vraiment impossible. En tout cas, c'est très coûteux socialement. L'IA fait peut-être partie des solutions.
Philippe Biwix, votre analyse, votre réaction, est-ce que justement la prise de conscience que l'on vit dans un monde fini doit nous contraindre, nous obliger même à faire des choix, des arbitrages beaucoup plus forts?
Alors pour l'instant, c'est pas trop le cas, parce que justement, l'innovation technique, en fait, permet de repousser les limites. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez par exemple le pétrole qu'on va chercher aujourd'hui offshore, qu'on va chercher dans l'Arctique, quand vous regardez ce qu'on produit, ce qu'on extrait en métaux, on peut même récupérer des résidus miniers du passé parce qu'on a appris à traiter des minerais qui sont plus faibles. Du coup, l'innovation technique, finalement, elle permet de développer la quantité de réserves. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, les réserves d'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a consommé depuis 1972 et le rapport au Club de Rome, on n'a jamais eu autant de pétrole, on n'a jamais eu autant de cuivre, on n'a jamais eu autant de charbon et de presque tous les métaux en réserve disponibles.
Non, donc, mais on sait bien que le pic pétrolier s'approche, hein, on le date à 2030 environ, et donc cette fin, on la voit.
Voilà. Par contre, effectivement, ce qu'on vient heurter, on vient heurter d'autres limites planétaires. Parce qu'effectivement, il y a un lien entre l'énergie et les ressources, parce qu'il faut extraire des ressources de plus en plus profondes ou de moins en moins concentrées qui consomment plus d'énergie. Il y a la question de l'atteinte à la biodiversité. Il y a la question des résidus miniers, de la pollution généralisée. Donc, on voit qu'on atteint effectivement aussi d'autres limites planétaires avant peut-être même la limite inéluctable des ressources. Mais c'est vrai que, alors, à court terme, je suis d'accord avec Antonin sur le fait que ça va pas nous apprendre grand chose et qu'on peut continuer à faire de la croissance pendant quelques décennies. Mais c'est vrai qu'à long terme, il y a un côté absurde, au moins pour un ingénieur, à cette croissance indéfinie plutôt que infinie. C'est-à-dire que quand vous faites 2% de croissance par an, tout le monde serait content avec 2%, hein, je pense. Le gouvernement français, ça lui irait bien, effectivement, en ce moment. Eh bien, ça veut dire que vous doublez tous les 35 ans la taille de l'économie. Et donc, au bout de 1000 ans, ça fait x 400 millions. Est-ce qu'on peut imaginer dans 1000 ans une économie européenne ou française ou mondiale qui serait 400 millions de fois plus importante et qui consommerait moins de ressources, qui consommerait moins d'énergie, qui émettrait moins de CO2? Il faut convoquer la question du découplage, de la dématérialisation, à cette idée qu'effectivement, chaque euro de valeur ajoutée, chaque dollar de valeur ajoutée consomme de moins en moins de ressources ou d'énergie, c'est plus ou moins vrai, hein, c'est ce qu'on appelle un découplage relatif. Mais là, imaginez un découplage qui serait d'un facteur 400 millions ou 1 milliard. Alors, une voiture qui consomme 100 fois moins, peut-être qu'on va l'inventer, je ne sais pas si l'IA va nous aider, mais une voiture qui consommerait 400 millions de fois moins, j'ai plus de mal à l'imaginer. Donc, question quand même du système économique, voilà, c'est un vrai sujet, quoi.
Antonin Bergeau, vous voyez sourire lorsque Philippe Biwix donnait ces chiffres au-delà même de l'intelligibilité humaine. Comment vous réagissez là, encore une fois, en tant qu'économiste et dans ce rapport à la croissance infinie?
Oui, non, mais je souriais aux chiffres parce que c'est vrai qu'ils sont absurdes. En économie, on n'est pas non plus. Je pense que quelques décennies pour nous, c'est déjà du temps très long. On n'est pas une discipline forcément très armée pour mesurer ce qui va se passer dans 1000 ans. Là, ce qui s'est passé depuis 100 ans, c'est une multiplication quand même par plus de 20 du PIB par habitant, avec une empreinte sur l'environnement qui n'a pas été multipliée par 20, mais qui a quand même été considérablement augmentée. Donc, si on regarde le temps très long, en tout cas passé, ce qu'on voit, c'est quand même que la croissance, elle a été supérieure à 2% en moyenne que sur une petite parenthèse finalement de l'histoire de l'humanité, en tout cas de l'histoire. Donc il n'est pas du tout établi que ça reste, on reste sur une croissance de 2%, et d'ailleurs on est maintenant depuis longtemps assez loin des 2%. Cela dit, comme ça a été dit, en fait le progrès technique repousse la limite physique qui en fait en économie on sait l'intégrer. Enfin, je pense qu'en fait une façon de réconcilier un peu ces deux problématiques, c'est aussi de dire que si on arrive à bien mesurer le prix et le coût de notre impact sur la biodiversité, sur l'environnement, on peut mettre des contraintes sur l'innovation, on peut mettre des contraintes sur la production qui permettent aux ingénieurs et aux personnes qui gèrent les entreprises de raisonner sous cette contrainte et d'essayer.
Très concrètement, vous parlez de taxes environnementales, de droits à polluer, de tous ces mécanismes justement qui permettent de corriger des externalités négatives.
Par exemple, alors après la difficulté, c'est de mettre un prix sur. On peut à peu près mettre un prix sur le carbone et c'est déjà pas super facile, mais mettre un prix sur la biodiversité, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Donc évidemment, il y a après c'est des débats techniques et peut-être qu'effectivement on n'a pas le temps de les avoir parce qu'on va se mettre d'accord dans 25 ans et ce sera trop tard. Mais il n'y a pas d'incompatibilité à raisonner sous contrainte, y compris contrainte de ressources finies en économie, je pense. Sur 1000 ans, c'est sûr qu'on aura du mal.
Philippe Biouic, je reviens sur un débat qu'a soulevé Antonin Bergeot un peu plus tôt dans notre discussion, la question de la régulation. Comment réguler? À quel point réguler? Quand est-ce qu'il faut réguler lorsque une innovation se développe? Prenons le cas de l'intelligence artificielle. L'Europe a créé un modèle de régulation inédit au monde dans ce domaine, notamment à travers le travail de la Commission et du Parlement européen l'an dernier. Quel est votre avis de ce point de vue-là? Est-ce qu'il faut réguler en amont, pendant, après l'innovation?
Effectivement, il y a un truc qui est étonnant dans le domaine du numérique, c'est qu'en fait, c'est un domaine qui échappe historiquement à la régulation. C'est-à-dire que dans les domaines où on fabrique des objets ou des services un petit peu compliqués, il y a la puissance publique, d'ailleurs pas qu'en Europe, c'est vrai aux États-Unis, elle a inventé un truc qui s'appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc, si vous inventez un nouveau médicament, il y a un process à suivre pour pouvoir vendre et utiliser ce médicament. Si vous voulez vendre des sièges bébés ou des jouets, ça peut être un truc tout à fait sympathique, mais ça peut être aussi, si c'est mal conçu, si ça prend des produits chimiques, etc., qui vont pas, ou que c'est pas au bon niveau, eh bien, vous allez potentiellement faire un truc très dangereux. Donc, exactement comme l'idée de l'IA, ce qu'on disait tout à l'heure. Un véhicule, un avion, un train, une voiture sont homologués. Et c'est incroyable. Dans le domaine numérique, il faudrait, en fait, qu'il n'y ait pas ce truc-là. Voilà, ça n'existe pas. Et on peut sortir, finalement, n'importe quel service. À partir du moment où vous acceptez de payer les services d'un hébergeur, d'un cloud, eh bien, vous pouvez mettre sur le marché à peu près n'importe quoi. Évidemment, à l'exception de quelques trucs qui sont passibles de la loi. Mais globalement, c'est ça. Et donc, je trouve que c'est assez étonnant. Et on devrait se poser cette question, effectivement. Alors moi, je pense qu'effectivement, il faut un peu plus de régulation. Alors ça ouvre la question, bien sûr, du fait que l'économie est très internationale, l'économie est très ouverte, qu'il y a beaucoup de services et de biens qui sont échangés. Donc ça pose évidemment la question de la régulation aux frontières, ce qui rentre, ce qui rentre pas, et de la compétitivité dans la mesure où on a accepté de jouer dans le marché mondial. L'Europe est un peu la seule à faire ça. C'est peut-être une question à se poser aussi. Le paradigme est en train d'évoluer avec des mécanismes d'ajustement justement aux frontières où on commence à dire pour faire la transition, il faut protéger des entreprises et si les normes environnementales et sociales ailleurs sont pas bonnes, eh bien il faut ajuster quand le produit, l'acier, le ciment, etc. arrive aux frontières. Eh bien je pense qu'effectivement il faut aller vers plus de régulation, mais en s'en donnant les moyens, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent d'agences de santé, de l'agence de régulation des télécoms, etc., dans tous les domaines où il y a des experts qui sont effectivement payés par la puissance publique et qui peuvent juger finalement de la pertinence ou non de mettre un produit ou un service sur le marché.
Un point important, Antonin Bergeot, c'est que dans cette frénésie que vous décrivez tous les deux, cette frénésie à innover, cette nécessité affichée permanente d'innover, quand est-ce qu'on pense ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on réfléchit aux conséquences, là aussi, de court, de moyen terme, de toutes ces innovations? Est-ce que cet interstice-là nécessaire à la pensée, il existe, soit dans les entreprises, soit dans l'État, soit... Voilà, comment on pense cela?
C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, le fait que les choses évoluent très rapidement pose vraiment des questions sur notre capacité à prendre un peu de recul et notamment à réfléchir un petit peu à quel chemin on veut et y compris sur les régulations qu'on veut mettre, parce que effectivement on régule beaucoup de choses et y compris au moment de la mise sur le marché on régule pas tellement l'IA ou en tout cas le numérique. Après il faut voir qu'on n'a pas régulé les voitures au moment la création de Ford et de Renault, quoi. Ça, on a quand même attendu que la technologie soit relativement mature, mûre pour la réguler. Donc je pense que là la problématique, c'est qu'on sait pas très bien comment faire. Les choses vont très vite. Donc je pense qu'il y a heureusement des chercheurs, notamment en sciences humaines, qui réfléchissent à la question. Il y a, dans tout cas, la manière dont le financement de la recherche en IA est fait en France. Il y a un volet sciences humaines qui n'a pas été supprimé, qui n'est pas énorme évidemment, mais qui existe. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent à ces questions.
Où est-ce qu'il existe?
il existe dans les universités essentiellement. Alors, il est petit, hein, je ne veux pas survendre ce volet, mais il existe. Donc, il y a des gens qui réfléchissent à l'IA, à l'éthique, à ce qu'on va faire, qui essaient de projeter un monde, effectivement, alors peut-être où l'IA va remplacer tout un certain nombre d'emplois, y compris dans la décision. Qu'est-ce que c'est, par exemple, une décision juridique qui est prise par une IA, qu'est-ce que ça vaut ? Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'on les écoute ? Évidemment, quand ça va très vite, quand on est à la recherche effrénée d'un peu de croissance parce qu'on n'en a plus et que c'est effectivement, je pense, la motivation principale derrière toute la demande d'investissement privé dans l'IA, hein, c'est quand même à la fin de ne pas être décroché complètement et d'avoir de la croissance. Donc si on est dans cette course, on va peut-être pas prendre le temps d'écouter complètement les chercheurs en sciences humaines. Je pense que c'est dommage, mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait une recherche qui existe.
Je vous pose la même question, Philippe Biwix. Où est-ce que cet interstice de pensée nécessaire existe aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe même pour penser ce qu'on est en train de faire ? Ça pose aussi évidemment la question de la maîtrise, hein, de cette innovation.
Ouais, je pense qu'il y a effectivement pas beaucoup de temps pour penser, pas beaucoup de lieux non plus, parce qu'en fait, finalement, les drivers de l'innovation historique, hein, même depuis 2 siècles, c'est d'abord l'efficacité. Hein. Antonin disait tout à l'heure qu'on faisait des choses de plus en plus efficaces. C'est vrai que consommer moins d'énergie, consommer moins de ressources, c'est bon pour la compétitivité. Hein, donc ça permet finalement de faire des produits qui sont moins chers. Malheureusement, l'efficacité, elle est un petit peu compensée par l'effet rebond. Hein, cette idée que chaque service unitaire va consommer moins, par contre, il y aura beaucoup plus de volume, parce que justement, ça va coûter moins cher. Pensons par exemple à ce que coûte de stocker 1 gigaoctet, par exemple, et donc que sont devenus les formats des vidéos, des photos, etc. qu'on prend. Et l'autre ressort, c'est la productivité. C'est-à-dire finalement le fait de pouvoir utiliser moins de travail humain. Et donc, effectivement, pris dans cette logique de destruction créatrice, hein, finalement, parce que on a effectivement des produits, des services qui consomment de moins en moins. Donc, produire une tonne d'acier, bah, c'est moins d'énergie et c'est moins de personnes aujourd'hui à Dunkerque que ça l'était il y a 30 ans et encore plus qu'il y a un siècle. Et donc, du coup, on est pris là-dedans. Et effectivement, la puissance publique, elle dit, eh ben, je veux pas la guerre civile, donc faut que je crée des emplois. Donc, il faut effectivement des nouveaux emplois par rapport à des emplois qui sont détruits par la productivité. Et puis, de l'autre côté, eh ben, les privés, eux, ils jouent dans un jeu concurrentiel et il faut bien effectivement se défendre. Et donc finalement, tout le monde a un intérêt à ce que finalement on appuie sur l'accélérateur à fond et puis eh ben, les conséquences, on les regarde un petit peu après. Et donc la question qui pourrait se poser, c'est finalement, est-ce que cette course à la productivité, on ne devrait pas la réfléchir un petit peu ? Il y a des endroits où elle est très pratique, hein, elle a permis aussi la consommation incroyable qu'on a aujourd'hui peut-être et le niveau de traitement médical, etc., au moins dans des pays comme l'Europe, mais finalement elle est aussi extrêmement coûteuse justement sur la question environnementale. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où finalement on devrait quelque part renoncer à cette course à la productivité, mais ce qui veut dire mettre en place des mécanismes de régulation, des mécanismes fiscaux aussi, hein, par la puissance publique, pour permettre ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on répare pas les fers à repasser des aspirateurs ? C'est pas juste parce que il y a des méchants industriels à obsolescence programmée. C'est juste parce que ça coûte plus cher que le neuf. Parce qu'on a mis beaucoup plus d'énergie, de robots, etc. dans la construction neuve que d'énergie dans la réparation. Et donc ça fait que du coup, on est bloqué. Et donc ces mécanismes d'innovation qui devraient être aussi social, sociétal, presque organisationnel, culturel. Pensons par exemple au retour de la consigne. Là, il y a un test depuis ce printemps de faire revenir un peu des bouteilles qu'on peut laver, réutiliser, etc. Eh bien finalement, c'est pas une innovation technique, c'est plutôt une innovation d'organisation, de plein d'acteurs qu'il faut mettre autour de la table. Et c'est cette idée-là qu'on pourrait essayer de pousser beaucoup plus, en se disant que l'IA, c'est très important, mais ça ne regarde que une partie marginale, finalement, au moins à date, de l'économie. Bien sûr, ça va tout perturber, mais les villes, etc., elles vont pas être perturbées demain matin par l'IA, quoi. Les villes de 2050, c'est les villes d'aujourd'hui, il y a un peu de choses près.
En guise de conclusion, si je puis dire, une archive de 1969 et la voix vibrante de René Barjavel.
J'ai écrit Ravage. Ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était la fragilité de notre civilisation. Plus une civilisation est avancée, plus elle est mécanique, plus elle est électrique, plus elle dépend des machines, des circulations, des fluides, plus elle est menacée, parce qu'il suffit d'un grain de sable pour que tout s'arrête. L'homme d'aujourd'hui, si on cassait la civilisation qui est autour de lui, serait comme un escargot dont on a cassé la coquille, comme une huître qu'on a arrachée. Et j'ai écrit ce roman, au fond, il faut bien dire les choses comme elles sont, pour essayer de dire à mes lecteurs, faites attention, voilà ce que vous êtes, voilà où nous en sommes, essayez de rester des hommes.
Essayons de rester des hommes. Donc merci à tous les deux de cette discussion, de ce débat, Antonin Bergeau et Philippe Biwix.
France Culture.
La romancière et poétesse Cécile Coulon partage et commente avec nous les poèmes qui accompagnent sa vie. Comment les poètes et les poétesses ont-ils écrit sur la nature? Comment les paysages ont-ils nourri les plus grands textes de la poésie française? L'instant poésie de Cécile Coulon, tous les soirs en semaine à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Une expérience immersive à écouter au casque.
Et restez à l'écoute de France Culture parce qu'après le journal, on va s'intéresser à un bien beau sujet, l'élégance animale. On en parlera avec Bertrand Prévost, mais pour l'heure sur France Culture, il est 19h.